إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. دونك en cette soirée du samedi 14 ربيع الآخر 1435 de l'Hégire correspondant au 15 février 2014 inshallah ta'ala. Je vous donne le micro pour commencer, inshallah ta'ala, la première question d'une série, inshallah ta'ala, de questions-réponses. Tfadl.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت نت. الحمد لله. ابن محمد، désolé de te prendre de court comme ça. Je vais poser la première question, inshallah, et ensuite, inshallah, tu feras les autres. Barakallahu fik. Question d'un frère. Première question. J'aimerais savoir si je peux fabriquer des biscuits en forme d'animaux ou de personnages. Désolé si ma question est un peu stupide, mais je ne veux pas faire d'erreur. Barakallahu fikum pour votre patience. Tafadhal cheikh.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تعالى la réponse, je dis إن شاء الله تعالى que tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que tu vas imiter Allah subhanahu wa ta'ala dans le fait de façonner. C'est lui le moussawir. C'est lui qui façonne des personnages et des animaux, etc. C'est pas toi qui façonne. Donc, si tu veux yani, fabriquer ou la construire des gâteaux, construis
Inch'Allah, apparemment vous avez terminé, cher. Ah, ben c'est bon, il s'est déconnecté. Ibn Mohamed, Inch'Allah, tu passes aux autres questions, Inch'Allah, je te laisse faire.
Juste pour dire que j'ai ouvert le salon bis parce que le salon va bientôt atteindre 250. Donc, si quelqu'un peut retransmettre dans le salon en question, voilà. Et tout faire comme a dit Cheikh, hein, s'il ne te répond pas, passe au suivant. Et voilà, comme ça on ne perdra pas de temps, Inch'Allah.
Salam alaikum, est-ce que vous m'entendez? Tayeb, je vous donne le micro pour me dire exactement ce que vous avez entendu. Je ne me répète pas.
En fait, cher, c'est simple. On a entendu les deux premiers mots. Donc, autant dire qu'il serait préférable que vous répétiez tout, Inch'Allah, parce qu'on n'a rien entendu de spécial, en fait.
Taïb, j'avais dit, Inch'Allah ta'ala, qu'il ne devait pas faire cette chose, car c'est Allah Azzawajal qui façonne. C'est lui le mot sawir. Et toi, maintenant, tu veux tout sawir. Tu veux, c'est-à-dire yani façonner de façon à donner une forme, que ce soit d'animaux ou de personnes. Je te conseille, si tu veux préparer des gâteaux, prépare-les en forme de voiture, par exemple, ou bien de maison, ou bien de quelque chose qui n'a pas d'âme, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Sinon, yani, yom al-qiyama, il te sera demandé d'essayer d'insuffler dans cette forme de l'âme, et tu ne pourras pas. Naam, tfadlal.
Je ne sais pas, Fawzi, si tu attends que je lise, mais je n'ai rien à lire parce qu'on ne m'a rien envoyé. C'est bon, Inch'Allah. Donc, Bismillah wa salat wa salam ala Rasulillah. Donc, question d'une sœur chère qui dit: Cher, qu'Allah vous accorde le Firdaus. J'ai des pertes blanches en continu. Lorsque je fais le wudu, les ablutions, par exemple pour le dhohr, et que je souhaite accomplir la nafila du dhohr, donc 4 avant et 2 après, je fais les ablutions et je prie les 4 nafilas du dhohr. Et j'ai senti, et après vérification, que j'ai eu des pertes pendant la salat nafila. Est-ce que je dois refaire le wudu pour salat dhohr, donc obligatoire, et de même, si je sens que j'ai eu des pertes au dhohr, est-ce que je dois refaire le wudu pour les deux rak'at nafila après le dhohr? Qu'Allah vous guérisse, Cheikh, barakallahu fikoum, pour autant que vous nous accordez. Donc en gros, Cheikh, si une sœur constate des pertes pendant une prière et qu'elle souhaite enchaîner avec une autre prière juste après, est-ce qu'elle doit refaire les ablutions ou pas? Barakallahu fikoum, Cheikh.
La personne qui a des pertes, ou que ce soit par exemple un homme qui a une incontinence, par exemple, urinaire, ou alors même d'un liquide qui sort comme ça quand il joue par exemple avec sa femme. Le moyen, quand quelqu'un a une incontinence, il y a des pertes qui n'arrêtent pas, on va voir. Il ne sort pas de l'un des deux cas. Ou bien, cette sœur sait par exemple qu'elle a un moment où les pertes s'arrêtent. Dans ce cas, elle attend, elle retarde un peu la salat, les pertes arrêtent comment dire, de couler. Ensuite, elle fait le wudu, elle fait kda, et elle prie bi'idhnillahi ta'ala. Si maintenant, elle sait que ses pertes n'arrêtent pas de couler, tout le temps elle a les pertes. Dans ce cas, quand elle commence, et elle fait le wudu, et elle commence à prier, elle n'arrête pas jusqu'à après avoir terminé dhohr et nafila. Pourquoi? Parce qu'elle n'a aucune solution. Et c'est pas possible qu'elle aille à chaque fois faire le wudu. Donc, elle laisse, à condition que quoi? À condition qu'elle laisse de ne pas faire le wudu jusqu'au moment où elle va prier. Maintenant, à partir du moment où elle a fait le wudu, elle dit Allahu Akbar, khlas, c'est une personne. Qu'il y a des choses qui coulent. Mais à condition que ces pertes yani, ne s'arrêtent pas, yani, elles sont là avec elles presque tout le temps. Sinon, où elle sait qu'elle peut rester sans les pertes, par exemple une demi-heure, une heure sans les pertes, et elle se connaît, donc elle attend que le moment où il n'y a pas de perte, ensuite, elle prie. Naam, tfadlal.
Barakallahu fikoum, cher. Question suivante d'une sœur qui dit: est-ce qu'il m'est toujours obligatoire d'aller voir mon père, sachant que ma belle-mère, donc celle que mon père a épousée, pratique la sorcellerie? Et la position de mon père reste ambiguë. De plus, je ne veux pas y ramener mes enfants, car certaines de mes sœurs, de père et de mère, ont été atteintes par différentes pratiques de sorcellerie. Ne connaissant pas les moyens entrepris pour nous atteindre, je préfère éviter de m'y rendre cher. Que me conseillez-vous, Barakallahu fikoum?
Elle parlait de son père, ça. Dis-moi, cette sœur parlait de son père. Confirme-moi.
En fait, Cheikh, c'est sa belle-mère, donc c'est la femme de son père, qui pratique la sorcellerie. Et elle connaît, enfin, la position de son père est ambiguë. Donc il n'est pas pour peut-être, mais il n'est pas totalement contre, etc. Et avec la crainte, elle demande si elle doit s'y rendre quand même ou pas.
N'est pas obligé d'aller chez sa belle-mère. Ce qui est obligé, c'est d'aller chez son père. Non, ce qui est obligé, c'est d'aller chez son père. Maintenant, si son père, elle a peur de le rencontrer chez sa belle-mère, chez sa femme, et ensuite elle aura des problèmes, elle peut le rencontrer dehors. Elle peut le rencontrer dehors. C'est pas obligé de le rencontrer chez elle. Elle le rencontre dans le travail. Elle le rencontre dans la rue, devant le boulanger. Le moyen qu'elle rencontre son père. Et bien sûr, il y a d'autres moyens, le téléphone, etc. Mais surtout, le rencontrer, ce n'est pas obligé de le rencontrer chez sa femme. Donc la solution est claire, Tant qu'elle a des doutes pour ses enfants, etc., le sihr, etc., elle peut éviter. Sans toutefois rompre les liens avec sa belle-mère. Elle peut lui téléphoner. Elle peut téléphoner à sa belle-mère. Sorcier, elle est, comment ça va, alhamdoulilah, tu vas bien, mon père va bien, tout le monde va bien. Non? Sans toutefois aller chez elle, sans lui montrer que il y a entre toi et moi de l'adversité. Quant à son père, elle peut le voir ailleurs, bi-idhnillahi ta'ala. Tfadl.
Afouane Cheikh, avant de poser la question suivante, j'ai reçu de nombreux messages privés me demandant comment on fait pour poser une question. Donc, je prends juste quelques secondes pour expliquer. Donc, pour toutes les personnes qui veulent poser une question, vous devez tout simplement lever la main. Dans ce salon-ci, j'apprends l'islam sur la vraie voie ce soir. Donc, il est inutile déjà de lever la main dans le salon bis. Et vous devez lever la main uniquement dans le salon j'apprends l'islam sur la vraie voie, en appuyant sur Raise Hand, qui se trouve en dessous des pseudos. Et attendre qu'un admin vienne chercher la question si le temps le permet, car vous voyez qu'il y a déjà pas mal de mains levées. Barakallahu fikoum pour votre compréhension. Alhamdoulilah, le frère vous a mis un lien. Comment poser une question, Inch'Allah. Chère, question suivante d'une sœur qui dit: Chère, nous souhaitons un conseil par rapport à la hijab. Inch'Allah. Voici en France, il se fait de plus en plus la hijra des couples avec le mari qui dépose la femme et les enfants dans un pays musulman. Et lui fait des allers-retours entre la France et le pays musulman en question, pour le travail, elle précise. Et cela dure parfois des années. Est-ce que cela, cher, est mieux que de rester tous dans un pays mécréant, ou doit-on tous patienter ensemble dans ce pays mécréant, cher? Jazakumullah khairan, cher. Et elle demande si vous connaissez le prénom de celle qui coiffe la fille de Pharaon.
Pour la première question, d'après mon avis, regardez, quand on ne peut pas atteindre une chose à 100%, si on peut atteindre de cette chose 80%, c'est mieux que rien, ça, oh là là là. C'est pour ça que Cheikh l'Islam a dit sa phrase célèbre, à peu près. Il a dit, quand on peut pas avoir de la lumière à 100%. Maintenant, s'il y a une lumière avec un peu d'obscurité, c'est mieux. C'est mieux qu'il n'y ait pas, ou alors il y a de l'obscurité avec de la lumière. C'est mieux que d'avoir seulement de l'obscurité. Vous avez compris? Si on vous met dans un appartement, on vous dit, voilà, yani vous allez vivre dans la totale obscurité. Ou bien choisissez si vous voulez, on va vous mettre une petite lampe dans la cuisine. Une petite lampe. Qu'est-ce que vous allez choisir? Sûrement une petite lampe, ma'adesh. Je dis, Wallahu ta'ala, à la rigueur, quand il a déposé sa femme et ses enfants dans un pays de musulmans, à la rigueur, par rapport à la femme et les enfants, c'est une hijra. Ils ont quitté le pays des kuffars. Il a gagné que sa femme et ses enfants, alhamdoulilah, sont dans un pays musulman, à l'aise, pratiquent comme ils veulent, la douceur de la foi dans le cœur, alhamdoulilah. Reste pour lui, je ne crois pas que ce soit à 100% une hijra, mais ça ne fait rien. Au moins, sa femme et ses enfants ont gagné. Et lui, il a gagné, disons, 70% de la hijra. Il faut qu'il arrête de France pour que ça devienne à 100%. Wallahu ta'ala a'lam. Quant à la coiffeuse de Pharaon, il n'y a aucun hadith qui a cité son nom, à ce que je sache. Tout ce que vous trouvez qu'elle s'appelle X ou Y, tout cela, ce sont des récits et des contes. C'est tout. Si quelqu'un connaît son nom avec un hadith authentique, qu'il nous le montre, Inch'Allah Ta'ala, peut-être qu'il y a et que j'ai oublié. Tfadl.
Barakallahu fikoum, cher. Question suivante d'un frère qui dit: Ya cher, je voudrais avoir votre avis si je dois obligatoirement, pardon, appeler un savant, mais je ne parle pas arabe. Son problème, donc je suis atteint de transpiration excessive de dessous les bras, alors que je ne fais pas d'effort, ce qui m'oblige à changer plusieurs fois de vêtements dans la journée. Cela est invivable et je souhaiterais effectuer une opération pour ne plus transpirer, cher. Celle-ci consiste à retirer les petites glandes qui se trouvent en dessous des aisselles, d'où s'écoule la transpiration. Est-ce que cela, cher, est considéré comme un changement de la création d'Allah? Barakallahu fikoum.
Tu as bien dit que, je crois que c'est toi, Allah Alam, qui a dit, donc je voudrais votre avis. Je ne sais pas si c'est dans cette question ou dans l'autre, avant celle-là. Confirme-moi, Ibn Mohammed.
Il dit, Yachir, je voudrais avoir votre avis ou si je dois obligatoirement appeler un savant. Donc, est-ce que cette question nécessite vraiment qu'il contacte un savant ou est-ce que vous pouvez répondre, cher?
D'accord, avant de répondre, Inch'Allah, je demande aux admins que quand ils prennent une question de quelqu'un et qu'ils savent que je lui ai répondu, qui lui baisse la main avec l'outil qui fait descendre les mains, pour, comme ça pour savoir à combien on a répondu et combien qu'il reste de mains levées. Al-Mouhim, je dis, si cette transpiration, yani, ne cause aucun tort, la personne, yani, transpire un peu plus que les autres, c'est tout. Ça se trouve même chez les femmes. Ça se trouve même chez les femmes, et ce n'est pas un problème. Mais si c'est une transpiration, yani, vraiment, yani, comme on dit, sous ses aisselles, par exemple, ça coule, ça n'arrête pas. Dans ce cas, c'est le médecin, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, qui décide. Tu vas chez un médecin spécialiste dans ces choses. S'il te dit ça nécessite une opération, ça ne devient plus esthétique. Pourquoi? Car c'est un médecin qui t'a dit ça. Donc ça se voit que c'est quelque chose qui a un rapport avec, yani, les médicaments, etc. Avec la médecine. Femme t'achi, voilà le conseil ta'ala, inshallah ta'ala, que je te donne. Si le médecin te dit ce que tu as toi, c'est grave ou là, il faut une opération. Naam, Inch'Allah, ta'ala, tawakkal Allah subhanahu wa ta'ala, car ce n'est plus de l'esthétique. D'ailleurs, la preuve, le médecin lui-même a reconnu qu'il faut une opération. Naam, tfadlal.
Barakallahu fikoum, cher. Et avant juste de passer à la question suivante, j'ai reçu deux messages privés concernant cette question. Le premier message d'une sœur qui dit qu'elle ne conseille pas à cette personne de faire l'opération et le mieux est de ne pas la faire car certaines personnes l'ont faite et cela a empiré. Par la suite, ils transpirent de partout. Donc c'est encore pire. Et un autre frère lui conseille d'utiliser la pierre d'Alain. Il me semble que ça se prononce ainsi. Mais la vraie, donc pas des imitations, des choses dans ce sens-là, et apparemment c'est très efficace. Wallahu alam. Question suivante d'un frère qui dit, Yachir, suite à un long arrêt maternité, ma femme a l'intention de reprendre son travail d'enseignante en lycée. Depuis mon retour du Hajj, il y a 2 ans, elle porte le voile, walhamdulillah. J'aimerais, cher, que vous essayiez de la raisonner. J'ai des revenus. Donc, il a des revenus suffisants. Donc, la femme n'est pas obligée de travailler. Barakallahu fikoum, cher, sachant qu'elle écoute. Barakallahu fikoum.
Wa alaykoum salam wa rahmatoullahi wa barakatuh. Celui qui a posé la question, je lui pose d'abord la question, est-ce qu'elle va enseigner dans un lycée ou un CEAM ou un endroit où c'est mixte, ou bien seulement elle va enseigner pour les filles? Dans le temps qu'il réponde, pose une autre question si tu veux.
Non, donc le frère, donc je te mets juste un dans ton privé et réponds-moi directement si tu peux, Inch'Allah. En attendant, question suivante. Cher, un frère converti a des parents divorcés depuis longtemps. Son père vit avec une femme, donc non mariée, ni église, ni mairie, ni rien du tout. Et a eu des enfants avec cette femme, dont 2 filles non mariées. Ses filles sont maintenant pubères. Et le frère demande s'il a le droit d'agir avec elle comme un frère de sang avec sa sœur de sang. C'est-à-dire lui serrer la main, discuter avec elle, embrasser sa sœur sur la joue quand il la voit, comme ferait un frère avec sa sœur de sang. De plus, que représente pour lui dans l'islam la conjointe de son père? Barakallahu fikoum ya cheikh, qu'Allah vous préserve tous. Donc juste je vous rappelle le début pour que ce soit bien clair. Donc un frère converti a des parents divorcés depuis très longtemps. Et donc son père maintenant vit avec une autre femme. Et ils ne sont ni mariés à l'église, ni à la mairie, ni rien du tout. Naam, puisque c'est des... puisque c'est un frère converti, Allahu a'lam, c'est des koufars. On va confirmer au cas où. Et donc si c'est bien des koufars, cher, il a eu des enfants avec cette femme, dont deux filles qui ne sont pas mariées actuellement. Barakallahu fikoum, cher.
D'après Cheikh Ibn Al-Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, il a dit que si les kuffars pensent et attestent et croient dans leur cœur que, yani, en vivant comme ça, les enfants qu'on va avoir, ce sont nos enfants, il a dit ce sont leurs enfants. Ça, c'est la fatwa de Cheikh Ibn Al-Taymiyyah, rahimahullah, et avec laquelle, si on prend cette fatwa, yani, il vaut mieux pour faciliter aux gens, sinon ça devient très difficile que celui-là vienne de mon père et ce n'est pas mon frère. Et comme ça, si on prend ça là, je crois que c'est mieux. Il a dit, si des gens, l'âme, vivent même, il a dit, en concubinage, ce sont des kofars et croient que, en vivant ainsi, l'enfant qu'on va avoir, c'est notre enfant. Pas de problème. Il a dit, s'ils attestent comme ça, yataqidun, dans leur cœur, il a dit, alors ce sont leurs enfants. C'est un peu comme... Les Sahaba, radiyallahu ta'ala, quand ils étaient koufars, avant de rentrer en islam. À chaque fois que des koufars rentraient en islam, jamais le prophète Hassan ne leur a dit quoi? Il leur a dit, allez faire l'acte de mariage, ce ne sont pas vos enfants, les enfants que vous avez. Pourquoi? Parce qu'ils attestaient que pour eux, c'était leurs enfants. Donc si on prend cette fatwa, c'est que ces enfants-là, ce sont tes frères. Wallahu ta'ala a'lam. Ensuite, il y avait autre chose dans cette question, mais j'ai oublié ce que je voulais dire. Tfadl.
Donc si vous souhaitez, je vous rappelle entièrement la question ou pas, cher. Donc il disait, sinon la fin, que représente pour lui dans l'islam la conjointe de son père? C'était peut-être ça. Donc avant que Cheikh revienne, donc apparemment certaines personnes déconseillent. Naam. Naam, c'est pour ça que je l'ai sorti. Inch'Allah. Donc juste pour vous dire que donc certaines personnes apparemment déconseillent la pierre d'Alain. Donc le mieux, ya akhi, c'est que tu te renseignes à la fois sur la pierre d'Alain et il y a apparemment un médicament efficace qui s'appelle Étiaxil. Donc renseigne-toi sur tout cela auprès d'une personne confirmée, Inch'Allah, et si possible de confiance. Et je laisse la parole à Cheikh, Inch'Allah.
Moi je n'étais pas là, je n'ai pas entendu de quoi vous avez parlé. C'est la deuxième fois que je me trouve déconnecté. Mohim, est-ce que vous avez entendu par rapport au frère qui a parlé de son père qui vivait avec une femme? Est-ce que vous avez entendu la réponse? Ibn Mohammed, est-ce que vous avez entendu la réponse? Alhamdulillah. C'est pour cela que yani, je regrette beaucoup, yani, beaucoup de fois des frères comme ça, surtout. Un frère, un reconverti une fois, il m'a beaucoup posé la question, voilà, j'ai des enfants, autrefois j'étais pas marié avec une femme, j'ai quatre enfants, ensuite je me suis marié et j'ai eu deux autres. Est-ce que les trois premiers ou les quatre, est-ce que ce sont mes enfants ou pas? Et moi je marchais sur la première fatwa que je connaissais, j'ai dit que c'était pas des enfants, seuls les deux derniers sont tes enfants, les autres sont les enfants de la mère. Ensuite, quand je suis tombé sur ce que, rahimallah, je voudrais maintenant yani, revenir sur. Bon, revenir, je ne peux pas revenir marche arrière, mais je voudrais, inshallah ta'ala, dorénavant, yani, répondre sur, yani, d'après ce qu'a dit Cheikh Ibn Al-Taymiyyah, rahimahullah ta'ala. Tfadl.
À fond, cher, parce que j'avais un énergumène en privé, donc je n'ai pas entendu si vous avez répondu à la dernière partie de la question qui est, de plus, que représente pour lui, dans l'islam, la conjointe de son père?
La conjointe de son père, pour lui, pour cet homme, chez la manie. Pourquoi? Parce que c'est une étrangère pour lui. Là, pour son fils, je veux dire. Là, c'est une étrangère, tant que son père n'est pas marié avec elle à l'église. Tfadlal.
Barakallah fikoum, cher. Concernant la question précédente, je vous la répète, cher. Suite à un long arrêt maternité, ma femme a l'intention maintenant de reprendre son travail d'enseignante au lycée. Depuis mon retour du Hajj il y a 2 ans, elle porte le voile, alhamdoulilah. Mais j'aimerais, cher, que vous essayiez de la raisonner, sachant que j'ai des revenus suffisants. Barakallah fikoum. Donc la sœur écoute et c'est pour enseigner dans un lycée mixte, cher.
Est-ce que vous m'entendez? Je dis à cette sœur, si elle craint Allah subhanahu wa ta'ala, que la plupart des savants ont dit que ce n'est pas permis d'enseigner dans un endroit où c'est mixte. La plupart des savants, et la sœur peut confirmer sur Internet, yani, en posant sur Google des questions pour voir yani, ce que disent les grands savants. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Waqarna fi buyutikunna. Waqarna fi buyutikunna. C'est le début qui nous intéresse, c'est la phrase que je viens de lire. C'est-à-dire, restez dans vos foyers, en parlant des femmes. Non. Et pas seulement des femmes, comme on dit certains. Et si on supposait qu'il parlait ici, des femmes du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme on dit certains, même si c'est faux, si on supposait qu'il parlait des femmes du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, restez dans le foyer, alors disons que du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sont les modèles pour toutes les autres femmes. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est le modèle pour tous les autres hommes, et ses épouses sont des modèles pour toutes les autres musulmanes. Deuxièmement, troisièmement, Orthée. En restant dans la maison. Et quand Allah Ta'ala t'a dit de rester dans l'homme, dit qu'on ne m'entend pas. Donc il y a des problèmes aujourd'hui. Il y a des problèmes aujourd'hui dans ce paltok. Je sais pas. Je sais pas comment faire. El-Mohim. Donc je sors et je reviens, Inch'Allah.
Afouane, cher, est-ce que vous m'entendez, cher? Trop tard. Cher, si ça coupe encore, essayez sinon de prendre le mic dans le salon bis, Inch'Allah, puisque ce soir, on n'a pas besoin de. Enfin, peut-être que vous en aurez besoin, mais pas tant que ça, de le manara.
Taïb, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Alhamdoulillah. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a demandé à la femme de rester au foyer, c'est seulement parce qu'il lui veut du bien. Ortez, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, t'a donné de surcroît, c'est-à-dire en plus, masha'Allah, un mari qui te suffit matériellement. Pourquoi vouloir yani aller te fatiguer dans la rue, voir le haram avec tes yeux. Naam. Ensuite, aller se mélanger dans un CM où c'est plein d'hommes. Tu seras obligé de parler avec le directeur, avec le surveillant général, avec les autres surveillants, avec les professeurs. Tu es obligé de parler avec les hommes, tu le veuilles ou pas. Ensuite, le lycée, la plupart sont pubères. La plupart, ils ont peut-être 16, 17, 18, des garçons. Naam, subhanallah l'azim, alors que ton qui a pas de baraka. Taïb, on me dit qu'on m'entend pas. Ça, c'est une mouche qu'il a aujourd'hui.
Juste pour dire, donc Cher va prendre le mic dans le salon bis, Inch'Allah, mais gardez les mains levées ici, puisqu'on continuera à les récupérer à partir de ce salon. Et dans quelques instants, Fouzi, Inch'Allah, prendra le mic pour que ce soit audible à travers ce salon également. Barakallahu fikoum.
Naam, est-ce que vous m'entendez? Oula, oula. Donc je disais, Inch'Allah ta'ala, je donne conseil à cette sœur, Inch'Allah ta'ala, que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné cette ni'ma de pouvoir rester à la maison, et Allah ta'ala lui envoie le rizq par le biais de son mari. Naam, sans qu'elle se fatigue, sans qu'elle court dans la rue, sans qu'elle aille attendre le métro, ni le bus, sans que la pluie ne tombe sur elle, sans qu'elle soit... Yani embêtée dans la rue, sans, alhamdoulillah, elle est là. Elle se met sur son lit, elle prend un verre de thé, et elle prend Kitab Tawhid, ou bien yani, Salafat au sol, ou bien tel et tel livre, et commence à lire et à noter, à lire et à noter, et à écouter les cours, et à écouter, alhamdoulillah, c'est une ni'ma que Allah subhanahu wa ta'ala ne donne pas à tout le monde. Le prophète, alayhi sallam, a dit dans un hadith authentique, a dit, Il a dit, il y a deux ni'ma que beaucoup de gens, yani, ne savent pas, ne leur donnent pas leur vraie, disons, valeur. Il a dit quoi? La santé et al-farah, le fait de ne pas être occupé. Regarde, si tu ni'ma, le fait que tu restes à la maison, tu n'es pas occupé, tu n'as ni travail ni rien. Tu restes à la maison, libre. C'est une grande ni'ma. Pour celui qui l'emploie dans ce que Allah Ta'ala aime. À quoi ça sert d'aller travailler alors que c'est pas permis, ramener beaucoup d'argent et Allah Ta'ala est en colère contre moi. Et cet argent ne contient pas de baraka. Si au moins le mari ne travaillait pas ou bien n'arrivait pas, plus ou moins. Et maintenant, alhamdoulilah, il a les moyens. Il a le fadl min Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Que Allah Ta'ala raffermisse ton cœur et nos cœurs. Tafadl.
Amin, barakallahu fikoum, cher. Question suivante d'un frère qui dit: Cher, je voudrais savoir ce qui est mieux pour moi. Est-ce que je dois partir, sachant, c'est une sœur, pardon, c'est pas un frère. Est-ce que je dois partir seul avec ma fille au Maroc, faire la hijra, en sachant que je suis française et que je n'ai pas de mahram, ou patienter avec mon mari, inshallah, en attendant de partir? Parce que je n'ai pas bien compris cette question, car au début, la sœur dit donc qu'elle est seule avec sa fille, au final, patienter avec mon mari. Donc, cher, est-ce que vous avez compris? Parce que moi, ça me semble être paradoxal. Donc, est-ce que pour vous, c'est paradoxal ou pas? Non.
Non, c'est paradoxal, mais Inch'Allah Ta'ala, ça a un moyen d'être compris. C'est quoi? Elle veut dire, est-ce que c'est mieux d'aller maintenant ou bien de patienter jusqu'à ce que je me marie et je vais avec mon mari? Peut-être qu'elle a oublié cette phrase. Non. Je dis, Wallahu Ta'ala alam, Wallahu Ta'ala alam, si elle est sûre de pouvoir résister là-bas, elle part. Où est la garantie qu'elle restera vivante jusqu'à ce qu'elle se marie? Où est la garantie qu'elle va se marier dans 1 an et pas dans 10 ans? Où est la garantie? Non. Où est la garantie qu'elle va se marier? Peut-être qu'elle ne va pas se marier. Donc, yani, le bien, non, on saute sur lui, on n'attend pas. Il faut juste être sûr yani, qu'elle est prête, Inch'Allah Ta'ala, et qu'elle a les moyens, bi'idhnillah Ta'ala, de rester là-bas. Allah Ta'ala lui fera une solution. Tafadhal.
Et Cheikh, justement, je profite de cette question. Je ne sais pas si vous vous souvenez une fois, je vous ai dit qu'il y a une sœur, donc qui était récemment convertie, qui avait posé une question, et qui avait sa mère aussi, qui était entrée en islam, et qu'il y avait son frère de 11 ans qui était hésitant. Et juste pour donner quelques nouvelles de cette famille, parce que j'ai eu quelques nouvelles, Alhamdoulilah, le frère donc, qui a 11 ans et qui était hésitant est entré dans l'islam pleinement maintenant. Il s'appelle, donc le frère s'appelait Matisse, il s'appelle toujours Matisse, et il a appris comme prénom musulman Souleyman. Donc s'il nous entend, on lui passe un énorme salam ainsi qu'à toute sa famille. Et aussi pour dire, cher, que la mère, la fille et donc le fils, ces trois personnes, ont fait justement la hijra au Maroc. Ils étaient tout récemment convertis et ils ont entendu que la hijra c'était obligatoire. Ils n'ont pas attendu et ils sont partis. Et maintenant ils vivent au Maroc, donc tous les trois. On demande à Allah Ta'ala qu'il les raffermisse dans cette hijra et qu'il raffermisse leur foi également. Donc, Cheikh, je vous pose la question suivante. Question suivante, donc d'une sœur qui dit: Cher, je suis co-épouse et je voudrais connaître le jugement concernant le fait de mettre la mention célibataire lorsque je remplis des papiers administratifs, comme les allocations familiales, qui sont une aide pour payer à la fois le loyer et qui sont une aide pour les enfants. Je perçois aussi une autre aide du chômage que l'on verse aux personnes ayant travaillé plus de 5 ans d'affilée, ce qui a été mon cas, et pour tout autre papier administratif, cher. Sachant qu'en France, bien sûr, il est interdit d'avoir des co-épouses. Donc la sœur ne peut pas dire qu'elle est mariée. Et donc elle met la mention célibataire et ça lui permet en plus d'obtenir certaines aides. Donc, cher, est-ce que cela est permis? Et qu'Allah vous accorde le Firdaus ainsi qu'à votre famille. Jazakumullah.
Si elle met qu'elle est mariée, qu'est-ce que ça va donner? Tfadl.
Si elle met qu'elle est mariée, elle devra apporter des justificatifs. Or, comme c'est une coépouse, en France, elle n'a aucun justificatif qu'elle est mariée. Ils ont dû faire le mariage religieux uniquement.
Si je comprends, elle est obligée de mettre qu'elle n'est pas mariée, voilà, qu'elle est célibataire. Et, reprends-moi si je me trompe, et si elle va mettre qu'elle est célibataire, c'est-à-dire on va lui donner de l'argent, alors que si elle avait écrit qu'elle était mariée, on lui aurait pas donné. Est-ce que c'est comme ça?
En tout cas, on ne lui aurait pas donné le même montant. Si elle met qu'elle est célibataire, soit elle n'aura pas d'aide ou elle aura une aide moins importante. Wallahu
La différence sera de combien? La différence sera de combien d'euros à peu près? C'est important.
Donc en attendant que la sœur me précise cela, si elle en a l'idée. Je vais poser la question suivante, cher. Donc, si la sœur peut me dire en privé donc ce que ça peut être comme différence. Donc, question suivante d'une sœur qui dit: Cher, qu'Allah vous récompense pour le temps que vous nous accordez. Une sœur voudrait savoir quel est le jugement des parents lorsqu'ils mettent leurs enfants dans l'école française, sachant qu'ils n'ont pas les moyens financièrement d'inscrire leurs enfants dans une école musulmane. Une sœur m'a dit qu'avant la mort de Fatima, radiallahu anha, bon, normalement c'est une question par personne. Inch'Allah, on verra si on pourra la poser plus tard.
Donc j'ai pas compris, tu n'as pas continué après Fatima radhiyallahu ta'ala, et quel est le rapport avec la première question? Tfadl.
Non, justement, il n'y a pas de rapport. C'était une deuxième question, c'est pour ça que je me suis arrêté, cher.
Est-ce que maintenant quand vous m'entendez, c'est beaucoup plus net que par rapport à l'autre salon? Non, alhamdoulilah, peut-être parce qu'on n'est pas nombreux dans ce salon. Wallahu alam. Donc, si c'est possible de répéter la question, j'ai oublié c'était quoi.
Naam, cher. La question de la sœur était donc, est-il permis de mettre des enfants dans les écoles des Koufa, dans les écoles françaises plus, bon, c'est la même chose, sachant qu'ils n'ont pas les moyens financièrement de les mettre dans des écoles musulmanes. Donc est-ce que cela est permis, cher?
Pour celui qui a les moyens de leur donner des cours à la maison, ce n'est pas permis. Vous avez compris? Puisque déjà en France, c'est une ni'ma, on te donne cette alternative de yani, leur faire l'enseignement à la maison si c'est possible. Cette chose, par exemple, n'existe pas ici chez nous. Donc celui qui a les moyens d'enseigner à son fils à la maison, ça devient une obligation pour lui enseigner à la maison. Et le père et la mère doivent s'entraider comment yani, lui enseigner à la maison. Le père, par exemple, il lui enseigne le soir quand il vient du travail, et la mère, par exemple, pendant la journée. Le père, par exemple, l'arabe, la mère, par exemple, le français et autre chose. Et comme ça devient une obligation pour qu'il ne soit pas mélangé avec yani, les kofars et qu'il apprenne d'eux des choses vraiment, vraiment graves. Dans la aqida et dans la sexualité, et dans beaucoup de choses. Qu'Allah Ta'ala nous préserve. Non. Maintenant, s'il n'a pas les moyens d'enseigner, à la maison, il n'a pas les jamais, il les fait rentrer dans une école yani, française, Wallahu alam, peut-être c'est dans la contrainte. C'est n'ayons plus aucune autre solution. Et malgré cela, ça demande, inshallah ta'ala, à être, yani, cherché, bi'ilnillahi ta'ala. Inshallah ta'ala, je vous en donnerai la réponse bientôt, inshallah ta'ala. Tfadlal.
D'autant plus cher qu'apparemment, en France, ils ont pour projet de rendre l'école obligatoire, plus uniquement l'enseignement. Allahu musta'an. Question suivante, cher, en attendant toujours les précisions de la sœur. La sœur dit, cher, voilà, mes parents sont divorcés depuis quelques années. Il y a un an, mon père a loué son appartement et est venu vivre avec ma mère, sans renouveler leur mariage. On leur a plusieurs fois dit que cela n'était pas conforme à l'islam, mais ils ne veulent pas entendre. Que dois-je faire, cher? De plus, ils refusent le mariage pour moi, car ils n'acceptent pas le ta'aqdoud. Je veux faire la hijra en Égypte, mais ils refusent aussi. Et des disputes sans cesse à la maison. Quel comportement dois-je avoir face à cette situation, cher? Barakallahu fikoum. Cher, ainsi que les administrateurs. Barakallahu fikoum. Donc, cher, les parents étaient divorcés, mais maintenant le père est venu revivre avec la mère. Allahu alam, c'est des musulmans, tout ça.
Tu n'as pas précisé si cette personne c'était un frère ou une sœur. Tu as dit elle voulait faire la hijra, etc. Tu n'as pas dit c'était un frère ou une sœur. Autre chose, une sœur, autre chose. Cette sœur n'a pas précisé en disant que ses parents ont été divorcés et que maintenant il est venu vivre dans le même appartement. Elle n'a pas précisé s'il est venu vivre. C'est-à-dire que on lui a donné une chambre et il vit loin de son ex-femme. Et que peut-être devant lui, elle met le voile, ou bien il est venu vivre avec elle. Yani, il se touche, etc. Elle n'a pas cité ça, ce qui est très important. Car il est possible qu'on lui ait donné une chambre, c'est tout. C'est un étranger, on lui a loué une pièce. Et elle se voile devant lui, etc. Il ne se voit que rarement. Ou bien est-ce qu'il est venu vivre avec sa mère? Tfadlal.
Comme cher, donc j'ai dit à la sœur de me donner ses précisions. En attendant, concernant la question précédente de la sœur qui est co-épouse, elle dit qu'elle touchait déjà ses aides lorsqu'elle était célibataire, donc qui était à peu près le même montant. Je l'ai touchée déjà et à l'heure actuelle, mon mari a des problèmes financiers. Sans les aides, il ne pourrait pas subvenir à mes besoins. Pour le montant, j'aurais eu à peu près le même montant, donc je ne pense pas qu'il y aurait une grande différence. Allahu a'lam, cher.
Maintenant, si ça ne change rien dans le montant, qu'elle écrive célibataire ou mariée, ça ne change rien aussi, puisque ça ne change rien dans le montant. Quant à lorsqu'elle dit que mon mari a né sans ses aides, ne pourrait pas ou je ne sais pas quoi, je dis, l'âme, le mari, quand il ne peut pas, il n'a pas le droit de se marier avec une deuxième. Quelqu'un qui n'a pas les moyens de faire, yani, de subvenir aux dépenses de la deuxième, alors n'a pas le droit de prendre une deuxième. S'il n'a pas les moyens de prendre une troisième, il ne se marie pas avec une troisième. Et comme ça. Ce n'est pas, il ramène des femmes chez lui, ensuite il reste comme ça, yani, dans les problèmes, et il va dire aux femmes, allez travailler, moi je peux pas gérer, je n'ai pas les moyens. Non. Pourquoi quand tu es allé demander cette deuxième femme, pourquoi tu lui as pas dit, voilà, j'ai pas les moyens. On va se marier, mais yani, je ne peux t'acheter ni les habits, ni te faire manger. Non. De temps en temps, je t'achète un casse-croûte. Une fois tous les 15 jours, je t'achète un casse-croûte, tu le manges. Pourquoi il lui a pas dit ça? Sûrement qu'elle ne serait pas mariée. Non. Tfadl.
Afouan Cheikh, je voulais juste avoir une précision, votre avis, par rapport à ce cas, justement, sans vouloir enfoncer le clou. Mais bon, nous on sait qu'en islam, alhamdoulilah, Allah Ta'ala permet quatre épouses, donc avec certaines conditions. Mais les koufars l'interdisent. Et parfois, après, ils découvrent justement que l'homme est finalement marié, etc. Et ils disent, regardez, les musulmans, ils jouent avec nos lois pour profiter de certaines aides. Donc, ce qui... Ils essayent de détruire l'image d'islam à travers ce genre de comportement. Et je voudrais savoir, cher, ce que vous conseillez par rapport à ça. C'est juste une chose qui me tracasse.
Non, moi, quand ils mettent que c'est interdit de prendre une deuxième ou une troisième, ça c'est leur loi. Ce ne sont pas des lois divines. Allah Ta'ala a permis jusqu'à quatre. Donc moi qu'ils mettent comme loi que c'est interdit pour lui, pas pour moi. Moi, Allah subhanahu wa ta'ala me l'a légiféré. Ça? Non. Surtout, alors comment il m'interdit le mariage, il me permet de vivre en concubinage. Ça c'est... Il n'y a pas de plus bizarre que cela et de plus contradictoire. Et moi-même, reste pour les aides, c'est un problème. Non, pour les aides, c'est un problème. Et comme a dit le frère, ça peut jouer sur le fait de donner une mauvaise image, yani, de l'islam. Comme quoi, yani, maintenant, question d'argent, ils profitent. Question d'argent, ils profitent et ils savent faire ceci, cela. C'est pour ça que j'ai vu une fois une fatwa de Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Il a dit, le musulman ne doit pas compter sur un kafir pour le faire vivre. Non, il a dit comme ça. Il a dit, un musulman, en principe, ne prend pas les aides des kuffars. Il a dit comme ça. Il a dit, il est aziz, aziz, c'est-à-dire il a son honneur. Non, j'attends pas qu'un kuffar me donne de l'aide pour que je vive. S'il va m'enlever son aide, je vais mourir. Je vais tout le temps courir derrière lui, le supplier, peut-être trafiquer et mentir pour qu'il me donne des aides. Donc la solution pour qu'il ne me donne pas, etc., serait, comme vous le savez tous, yani, faire la hijra. Et lui montrer que je n'ai pas besoin de tes aides, bi'idhnillahi ta'ala. Non, je n'ai pas besoin de tes aides, bi'idhnillahi ta'ala. Tfadl, puisse Allah Azza wa Jalla vous aider tous et toutes.
Amin ya Cheikh, barakallahu fikoum. Donc la sœur dit, au moment du mariage, donc il avait une meilleure condition financière qu'actuellement, et depuis apparemment ça s'est dégradé. Donc que lui conseillez-vous, si vous avez un conseil, Cheikh?
Je conseille de patienter. Non, je conseille de patienter comme les Sahaba et les Sahabiyat ont patienté et mangé une fois, des fois tous les 3 jours et comme ça. Et elles ont patienté avec leur mari, mais idhnillahi ta'ala. Tfadl. Surtout si le mari est religieux. Surtout s'il est impliqué dans la religion. Tfadl.
Barakallah fikoum, cher. Concernant la question précédente, enfin une des questions précédentes, j'espère que vous vous en souvenez, et donc il dit que donc les parents ne se touchent pas, mais dorment dans la même pièce, à savoir le salon. Mais sa mère se dévoile devant lui. Donc alors qu'elle n'est plus sa femme. Donc je rappelle quand même la question, cher. Il y avait plusieurs éléments à l'intérieur. Elle dit, donc la sœur dit, cher, voilà, mes parents sont divorcés depuis quelques années. Il y a un an, mon père a sous-loué donc son appartement et est venu vivre avec ma mère, sans renouveler leur mariage. On leur a plusieurs fois dit que cela n'était pas conforme à l'islam, mais ils ne veulent pas entendre. Que dois-je faire, cher? De plus, ils refusent le mariage pour moi, car ils n'acceptent pas ta hadoud, et je veux faire la hijra en Égypte, mais ils refusent aussi, et des disputes sans cesse à la maison. Donc, quel comportement avoir face à cette situation, barakallahu fikoum, cher? Donc, je rajoute que les parents nous dorment dans le même salon, sans avoir de contact, mais elle se dévoile devant lui.
J'ai pas entendu ce que tu as dit dans le même salon. Qui dort dans le même salon? Les enfants ou bien les parents?
Les parents, cher. Donc, il est revenu vivre dans leur maison et à la fois le père et la mère dorment dans le salon.
Et pourquoi la personne dit qu'ils n'ont pas de contact? Comment se fait-il qu'ils dorment dans le même salon? Il n'y a pas de contact. Comment sait-elle qu'il n'y a pas de contact?
Faites pas de contact que peut avoir un homme avec son époux, en fait, cher.
Comment le sait-elle? Comment le sait-elle?
Enfin, je voulais dire un homme avec son épouse. Inch'Allah, on va attendre la suite. Tout faire, tu peux m'envoyer la prochaine question, Barakallahu fik, en attendant cette précision. Donc, question suivante d'une sœur qui dit, Cher, je voudrais savoir s'il est permis de faire des masques pour cheveux, visage, etc.
Termine la question, Barclay.
Non, t'as bien fait, Fauzi. Désolé, j'avais pas lu. Donc la sœur dit qu'il est permis de faire des masques pour cheveux, pour visage, etc., avec des produits alimentaires tels que le miel, le lait, les œufs, etc.
Non, c'est permis. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Parce que ce que vous faites avec les œufs, le miel, etc., le sucre ou je ne sais pas quoi, ce n'est pas dans le but de le jeter, mais c'est dans le but de y aller sans bédir, surtout si je le fais pour mon mari, par exemple. Vous avez compris? Comme ça, on dit les savants. Car cette femme, son but, ce n'est pas de jeter l'argent par la fenêtre, mais c'est pour devenir belle, par exemple, pour son mari. Bi-idhnillahi ta'ala. Tfadlal.
Allah fait comme cher. Question suivante. Je précise que je découvre les questions en même temps que vous. Donc, cher, en fait, à fois, on a posé la question suivante. La sœur dit qu'elle ne sait pas, mais elle suppose qu'ils n'ont pas de contact, en fait. Elle peut l'affirmer de façon sûre, mais selon elle, elle n'en a pas. Non. Non, cher. Donc, vous avez vu, quand on ouvre les questions générales, il n'y a plus de rapport avec la aqida, mais avec l'SF.
Donc je réponds à la sœur qui a dit que qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait avec des parents comme ça? Je dis premièrement, elle, d'après elle, elle dit que, d'après elle, ils dorment ensemble dans le salon, mais ils n'ont pas de contact. Et d'après moi, ils ont un contact. Non, c'est impossible qu'un homme dorme avec une femme dans la même pièce, et c'était son ex-épouse, et ils ne sont pas bien investis dans la religion. Et ils n'ont pas de contact. C'est impossible. Le fait qu'ils ne craignent pas Allah Azzawajal, ils viennent vivre avec une femme, ça suffit déjà. C'est un grand signe. Et ensuite, en plus de cela, ils viennent vivre et ils dorment dans le salon avec elle. Ensuite, il dit, il n'y a pas de contact. On a passé la nuit à lire le Coran et Sahih al-Bukhari. Toute la nuit, on a lu Sunan Abi Daoud et Tirmidhi. Naam, al-Muhim. Je dis à cette sœur, Inch'Allah Ta'ala, toi, ce qu'ils font, ce n'est pas ton problème. devant Allah Ta'ala, ce n'est pas ta responsabilité. Toi, le maximum, c'est que tu parles si tu peux. Surtout à ta mère. Une fille parle beaucoup plus à sa mère qu'à son père. Quand il est dehors, elle lui dit, Yaïma, c'est vraiment ma kisha al-fam, ça c'est très grave ce que tu fais. Moi je te dis maintenant parce que Yom al-Qiyamah, pour pas que Allah Ta'ala me dise pourquoi tu n'as pas dit, c'est tout. Voilà, je te dis dans ce sens. Maintenant tu veux rester ou passer la nuit ou là, d'abord c'est que moi je te dis seulement, Yaïma, c'est très grave ce que tu fais. Et c'est possible, elle dit ça aussi à son père, si elle peut. Si elle peut pas, ou alors que les deux n'acceptent pas, ou tout cela, alhamdoulillah, elle n'a aucune part de responsabilité devant Allah subhanahu wa ta'ala demain. Reste pour la hijra, etc. La hijra, quand la personne yani, a les moyens et sait que si elle ne fait pas la hijra, elle va couler, dans ce cas, elle peut aller, naam, même sans l'autorisation des parents. Si elle sait que en restant, elle va couler. Elle est sûre d'elle, elle se connaît, cette personne, il sait. Je parle d'une personne générale. Je me connais très bien, je sais que le shaitan, ces temps-ci, yani, vraiment, c'est lui qui me commande. Et je vais pas tarder, je vais boire de l'alcool. Je vais pas tarder, je vais faire la zina. Je me connais. Vaut mieux que donc je parte faire la hijra, même si mes... Seulement, faut-il être sûr que j'ai les moyens. Et que j'ai où aller, j'ai un pied à terre là-bas, là où je veux aller, et vous connaissez les conditions pour faire la hijra bi-idhnillahi ta'ala. Quand les parents ne veulent pas marier une femme, alors que quelqu'un se présente et qu'il a les moyens, et qu'il remplit les conditions, les savants ont dit, les parents dans ce cas perdent le tutorat. Le père perd le tutorat et le tutorat va à celui qui vient après son père, c'est-à-dire son grand-père, son fils, son frère. Vous connaissez la disposition bi-idhnillahi ta'ala. Non. Sinon, yani, elle patiente jusqu'à ce que Allah Ta'ala lui fasse une solution. Tfadhal.
Qu'Allah lui accorde une issue heureuse à ses problèmes. Question suivante, cher. Question d'une sœur qui dit: Cher, je vis en région parisienne, du côté de Paris, avec ma famille et ma grand-mère, ainsi qu'une partie de ma famille. Et une autre partie de sa famille vit à Alger. Ma mère et moi voudrions voyager afin de leur rendre visite. Donc, ils veulent voyager de Paris vers Alger afin de leur rendre visite et surtout rendre visite à la grand-mère qui a de sérieux problèmes de santé. Nos mahareem ne sont pas volontaires et disponibles pour nous, donc pour nous accompagner. Et ma mère ne peut pas rester ici sans voir sa mère. Que devons-nous faire, s'il vous plaît, cher? Barakallahu fikoum pour le temps que vous nous accordez, pour tous vos conseils, cher. En français. Enfin, une sœur, chère. C'est une sœur, et donc qui aimerait se rendre avec sa mère pour visiter leur grand-mère sur Alger, qui est malade, sachant qu'ils n'ont pas d'homme pour les accompagner.
Est-ce que tu as dit qu'ils étaient sur Paris, non?
De Paris, donc pour se rendre vers Alger.
Non, je ne peux pas prendre la responsabilité de leur dire de voyager. Puisque la plupart des savants disent que yani, le Hajj, il n'y a pas plus que le Hajj. Le Hajj, c'est quoi? C'est l'un des cinq piliers de l'islam. Et il a dit que yani pour le faire, il faudrait quoi? Il faudrait avoir un mahram. Et une femme n'est pas obligée d'aller au Hajj si elle n'a pas de mahram. Donc dans ce cas, là, bien sûr, il y a des savants qui ont dit que si elle est en sécurité, une compagnie en sécurité, elle peut voyager. Donc, Allahu alam, je ne peux pas prendre cette responsabilité, seulement que je lui dis qu'il y a un avis qui dit que si elle est en sécurité et dans la contrainte, elle peut le faire. Non. Mais je n'ai pas dit ce que je pense moi, inshallah ta'ala, et je ne peux pas prendre cette responsabilité. Tfadlal.
Barakallahu fikoum, cher. Question suivante d'une sœur qui dit: la chère, une fois, une sœur avait demandé si le fait de se chausser avec des talons, dans le but de plaire à son mari, était permis ou pas. J'avais entendu une partie de la réponse, mais je doute sur la réponse, à savoir est-ce que cela est autorisé ou pas. Je pose la question car je voudrais savoir si le jugement du talon, le Ka'b al-Ali, cher, s'applique à tout type de chaussures, même les plus simples sans exception. Pouvez-vous rappeler le jugement et qu'est-ce qui doit être considéré comme talon? Est-ce que des simples chaussures avec un talon de plus de 2 cm entrent dans le cas de l'interdiction ou pas? Voire plus, donc est-ce qu'il y a une taille limite ou une taille maximum ou autre chère? Barakallahu fikoum. Et elle ne parle pas donc des talons superficiels, mais par exemple des chaussures simples avec de légers talons par exemple. Est-ce que tout cela est interdit ou pas cher?
L'avis de Cheikh Ben Othaymeen, rahimahullah, c'est que mettre des talons dans des chaussures, s'habiller plutôt se chausser avec des chaussures qui contiennent des talons est interdit. C'est l'avis de Cheikh Ben Othaymeen, rahimahullah. Il a cité deux causes. La première, quand une femme met des talons, elle rentre dans la tricherie. Naam, elle a triché. Pourquoi? Parce que c'est pas sa taille. Non. Donc, quelqu'un qui va voir dans la rue, surtout s'il voit pas les talons, non, il va dire que celle-là, elle est grande de taille, alors qu'elle est petite de taille. Elle a triché. Et quand une femme, parmi les enfants d'Israël, même Ben Israël, a voulu une fois tricher, comme ça, elle était petite de taille, elle s'est mise entre deux femmes de taille et elle savait que maintenant, étant au milieu, elle allait paraître vraiment petite. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mis deux bâtons sur ses pieds et elle a marché avec. Il y a maintenant des trucs comme ça qu'on tient à la main, et ensuite de grands bâtons. C'est comme un jeu, on peut marcher comme ça, on peut faire jusqu'à de hauteur, c'est un jeu. Elle a mis des bâtons comme ça, mais c'était couvert. On ne voyait pas. Et les trois sont passés devant des hommes et les hommes yani, leur ont plu, etc. Le hadith est authentique. Allah Ta'ala les a punis en leur donnant les monstres. C'est pour ça que certains savants se basant sur ce hadith ont dit que les monstres ont commencé à deux des enfants d'Israël. Quand ils ont fait des. Pouvoir se mêler aux hommes et leur plaire, etc. Allah Ta'ala a donné à la femme, donc les monstres. C'est pour ça qu'il y a un hadith aussi authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit par exemple que autrefois, la viande ne pourrissait pas. Subhanallah, autrefois, la viande ne pourrissait pas. Tu achètes de la viande, tu n'as pas de frigo. Tu peux la laisser au soleil 3, 4, 5 mois, 6 mois. Rien ne lui arrive. Quand tu veux manger, tu manges. Ensuite, à cause des enfants d'Israël aussi, qui ont fait des fautes et des péchés, là, Allah subhanahu a fait que la viande maintenant pourrisse. Si elle dépasse 2 ou 3 jours, elle n'est pas dans le frigo, elle pourrit. Je reviens jeudi, ça c'est la première cause qu'a cité Cheikh, il a dit la tricherie. La deuxième cause qu'il a citée, il a dit la santé. Il a dit, le fait que la femme marche sur des talons, ça lui donne des choses, il a dit, qui ne sont pas bien dans son corps. Non. Ça va quoi? C'est une question de santé, ça va lui faire mal à la langue. À la langue, ça va lui faire mal peut-être aux reins, peut-être aux hanches, peut-être autre part. Non. C'est comme ça, il a dit, parce qu'elle ne marche pas d'une façon naturelle. Deuxième des choses. Maintenant, reste une chose avec laquelle je voudrais terminer. Maintenant, si les talons sont vraiment courts, comme elle a dit, elle, 2 cm, ou au point où il n'y a pas de différence, Dans ce cas, ça ne rentre pas dans l'interdiction. Vraiment, vraiment, il y a un ou deux ou trois centimètres. Non, de façon à ce qu'on remarque même pas. C'est toujours la même taille. Ça ne fait aucun mal dans la santé. Mais je dis, si c'est seulement un ou deux ou trois centimètres, donc à quoi ça sert de les mettre? Wallahu ta'ala alam. Je dis, pour terminer, celle qui évite les talons, c'est celle bi'idhnillah ta'ala qui est la plus conforme, ça veut dire la sœur qui est vivante, c'est la sœur qui est la plus conforme à la charia bi'idhnillah ta'ala. Tfadhal. Naam, c'est ce que j'allais citer, j'ai oublié. C'est ce que je voulais citer, j'ai oublié. La troisième cause, Cheikh ne l'a pas citée. Mais il y a une troisième cause, quand elle marche avec des talons, elle a ce qu'on appelle un dérangement dans la façon de marcher. Elle a quelque chose qui attire le regard des hommes et éveille. Éveille aussi yani, les sentiments des hommes. Donc, qu'elle craigne d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tfadhal.
Maklan fait comme cher. Question suivante, cher. Question d'une sœur qui dit, ma question concerne la mutuelle. C'est le fait de payer chaque mois pour le remboursement d'une partie des frais médicaux, les médicaments, l'hospitalisation, l'échographie, accouchement, etc. Mon mari est obligé de payer et de cotiser à une mutuelle à travers son travail chaque mois, cher. C'est-à-dire que chaque mois, son employeur enlève environ 15 euros de son salaire de lui fournir une mutuelle. Donc, cher, il oblige, chaque mois, son employeur lui retire 15 euros de sa feuille de paye directement. Et en échange, donc, il a droit à cette mutuelle. Il peut, s'il veut, rajouter sur sa mutuelle sa femme. Et cela n'est pas obligatoire. Dans ce cas, l'employeur enlèvera 15 euros de plus, donc 30 euros au lieu de 15 euros. Et la femme pourra donc profiter aussi des avantages de la mutuelle, ce qui aide vraiment pour les échographies qui coûtent extrêmement cher, les prises de sang, les hospitalisations, etc. Sachant qu'en France, cher, les prix ne sont pas du tout les mêmes qu'en Algérie. Hein. C'est fois 10, fois 100. C'est vraiment des prix exorbitants, parfois. Est-ce qu'il est autorisé que mon mari me rajoute sur sa mutuelle, sachant qu'à la base, il cotise obligatoirement pour cette mutuelle, même s'il n'en bénéficie pas, mais qu'il n'est pas obligé de me rajouter? Barakallahu fikoum, cher.
Mon avis, bi'idhnillahi ta'ala, c'est qu'il ne peut pas. Pourquoi? Car quand il va te rajouter, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, ensuite, l'employeur commence à prendre, par exemple, disons 15 euros chaque mois, ou disons 10 euros. Maintenant, s'il prend par exemple 15 euros chaque mois, pendant une année, ça va faire 150. Ensuite, une deuxième année, 300. Et la troisième année, 450. 150, 300, 450. Regarde, maintenant, il est possible qu'on soit à la troisième année et que toi, qui poses la question, n'es pas tombé malade. Il n'a eu besoin ni d'échographie, ni de rien, ni de rien. Est-ce que les autres confirment qu'ils ne m'entendent pas? Est-ce que les autres confirment qu'ils ne m'entendent pas? Confirmez-moi que vous ne m'entendez pas. Maintenant, hein, d'accord. Alors, je vous donne le micro, vous me dites qu'est-ce que vous avez entendu de la réponse jusqu'à où je me suis arrêté.
Vous avez dit, cher, il est possible donc qu'à un certain moment, donc elle n'ait pas besoin de soins. Et ça a coupé à ce moment-là.
Donc, voilà, c'est possible qu'elle n'ait pas besoin, en ce temps-là, pendant ces 3 ans, elle n'a pas besoin d'échographie, elle n'était ni enceinte, ni rien. Donc, voilà, elle a perdu combien? Elle a perdu 450 euros. Taïeb. Comme il est possible que, quand elle a commencé la mutuelle, on lui a pris le premier mois 15 euros, le deuxième mois 15 euros, ça fait combien? Ça fait 30. Et voilà, maintenant on a besoin d'échographie et qu'Allah Ta'ala refoule d'elle tout mal d'une opération chirurgicale qui demande 5 000 euros. La qadar Allah. Juste là. Regardez maintenant, elle a donné seulement 30 euros et l'employeur va lui donner, c'est-à-dire à travers la mutuelle, on va lui donner 5 000 euros. Alors qu'elle n'en a donné que combien? Que 30. N'est-ce pas ça ce qu'on appelle la loterie? C'est pas ça la loterie? Tu mets ton argent, l'âme, quelque part et tu sais pas ce qui va se passer. Il se peut que tu perdes des milliers, il se peut que tu fasses rentrer des milliers en donnant seulement quelques euros. C'est ça la loterie, c'est pour cela que les savants interdisent la mutuelle, sauf pour la personne qui, yani, on lui prend de force, comme l'employeur ici par exemple, une force. Ou bien, ils ont dit la mutuelle d'aide, pas la mutuelle où yani, c'est ces sociétés qui te prend ton argent. Mais, par exemple, c'est un État, l'État qui dit, nam, versez par exemple 50 euros tous les mois ou 10 euros là, et quand vous avez besoin d'opérations, etc., c'est moi qui m'en charge, l'État. Quand c'est l'État, ça ne fait rien, parce que l'État est obligé de te soigner quand tu tombes malade. Nam, c'est un peu comme la retraite. La retraite, quand tu travailles chez l'État, chaque mois, on te prend une certaine somme, et après, à 60 ans, on va commencer à te payer. On te paye bien sûr ce que tu as donné comme argent. Ensuite, il est possible que on te donne plus que tu n'en as donné. Non, il est possible que tu vives jusqu'à 100 ans. Alors, tu n'as cotisé que peu. Mais, Cheikh Ben Othaymin rahimahullah a dit, il n'y a aucune choubha, comme ça il a dit, aucune choubha, c'est-à-dire aucun doute, que la paye de la retraite est halal à 100%. Tfadhal.
Barakallah fikoum, cheikh. Toufiq, est-ce que tu peux m'envoyer la prochaine question? Car sur celle-ci, je vais demander quelques précisions. Barakallah fikoum. Voilà. Donc, question suivante d'une sœur, cheikh, qui dit: Cheikh, qu'Allah vous accorde le Firdaus, ainsi que tous les frères et sœurs. Amin, barakallah fikoum. Est-ce qu'on a le droit de voter dans un pays où il y a une grande majorité de musulmans et où on n'applique pas la loi d'Allah? Barakallah fikoum, cheikh, de m'éclaircir.
À cette question, j'ai répondu, ça fait seulement 3 cours. Et j'avais cité, si vous vous rappelez, la fatwa de Cheikh Ubayd al-Jabiri, hafidhahullah ta'ala. Lui, vous vous rappelez pas. Ça. Tayyib. Donc, Ibn Mohammed, dis-moi si tu te rappelles quelque chose, si tu te rappelles un peu de cette fatwa. Ayat Fadlab. Sinon, je vais vous la faire sortir maintenant. Tfadl, pour voir si yani, vous retenez ce que je vous dis. Tfadl, qu'est-ce qu'il a dit, Cheikh Obeid Hafidhahullah Ta'ala? Tfadl.
Cher, ça parlait de maslaha. En fait, par rapport à cette question, cher, c'est surtout, est-ce que cette fatwa est également applicable dans les pays musulmans? Effectivement, cher Obeid Jabiri n'a pas spécialement cité, et pour moi, mais peut-être que je me trompe, cher, il n'a pas dit que c'était une fatwa pour les pays de Kufr seulement. Mais c'était une fatwa générale, c'est ce qui me semble cher, à moins que je me trompe.
Non, j'ai compris de la fatwa que c'était des gens d'Europe qui lui avaient posé la question, mais il n'a pas dit que c'est spécial à l'Europe. Il a dit qu'à la base, voter, etc., ça vient de chez les kofars. Il a dit, il n'y a pas ça chez les musulmans. Pas ça chez les musulmans. Il a dit, la base, on parle jamais de vote et on dit, ça n'existe pas en islam. Mais, il a dit, si on est dans la contrainte et on sait par exemple que en votant sur celui-là, c'est nos intérêts qui sont dans le jeu, dans les jeux. Il va nous construire des mosquées, il va nous faire ceci, cela. Et le deuxième, il a dit, c'est un athée. Il a dit, si je prends Yani le vote, et je gagne, je vais fermer toutes les mosquées et ouvrir seulement des bars, etc., etc. Il a dit, dans ce cas, c'est une... Il a dit, mais on laisse ça, yani vraiment pour la contrainte. Il a dit, à la base, il n'y a pas de vote. Il n'y a pas de vote. Là. Tfadal. J'avais terminé la réponse.
À la fois, j'ai eu un petit décalage, donc le son revenait. Il me semblait que vous parliez encore parce que ça coupait un peu chez moi alors. Alhamdulillah, donc si vous avez la réponse pour la prochaine question, Ritoufir. Ritoufir, tu peux m'envoyer la prochaine parce que j'attends toujours les précisions du frère. Question suivante d'une sœur qui dit Cheikh, Barakallahu fikoum pour le temps que vous nous accordez. 15e question. Les oncles maternels et paternels de mes parents et le mari de ma grand-mère, qui est le beau-père.
Donc ça c'est un peu, ça rentre un peu dans, vous m'entendez? Alhamdoulilah, ça rentre un peu dans les devinettes. Donc les devinettes. Il y a l'oncle de maternelle et paternelle de mes parents et le mari de ma grand-mère qui est le beau-père. C'est un peu une devinette, à dire, Allahu Alam. Mais on va se concentrer un peu. Donc, les oncles maternels et paternels de mes parents. Donc, il y a deux questions. La première, ça parle des oncles maternels.
Afouane, cher.
Qu'est-ce qu'il y a, Ibn Mohamed? Qu'est-ce qui se passe? Non. Et toi, Fouzi, est-ce que tu m'entends? Alhamdoulilah. Donc, je réponds, pour les oncles paternels et maternels, ce sont des mahrams. Vous avez compris, pour une sœur, une femme, ses oncles, non, du père, et ses oncles du côté mère, non, sont des mahrams pour toi. Si tu es une sœur, et les oncles paternels de mes parents, et que ta mère, par exemple, a un oncle, tu ne peux pas te marier avec l'oncle de ta mère. Non. Et si tu es un homme et que ta mère a une tante, tu ne peux pas te marier avec la tante de ta mère. Donc je dis les oncles maternels et paternels des parents sont des mahrams. Ça, c'est pour la première question. Reste pour la deuxième. Celle-là, je n'ai pas bien comprise. Le mari de ma grand-mère, qui est le beau-père de mon père, sont-ils mes mahrams? Je n'ai pas compris pourquoi le mari de la grand-mère devient le beau-père du père. Elle dit, je n'ai pas compris. Si c'est possible de m'expliquer ça, tfadla.
Am cher, en fait, cher, si votre mère se remarie, ça deviendra donc le mari de la grand-mère pour la personne, et en même temps, donc, ça devient le beau-père du père de cette personne, en fait. Voilà, c'est en fait le mari de la grand-mère, on va dire, pour que ce soit plus simple.
Tu avais dit si ma mère se marie, et ensuite tu as changé de personne, tu es allé vers les autres. Continue avec moi. Si ma mère se marie, qu'est-ce qui va se passer? Moi, chaque fois que j'ai une question qui est en ce sens, est-ce que yani, la fille de la mère de l'autre, etc., a allaité, a allaité ma soeur, est-ce que donc moi je suis sa soeur ou pas? Toujours, je me mets à moi-même à sa place. Et je parle avec mon épouse. Je lui dis, par exemple, ma mère a allaité ceci, cela, pour essayer de comprendre. Alors toi, si c'est possible maintenant, tu as dit que ma mère s'était mariée. Kemmel, continue après.
Donc, à Fauchir, en fait, comme j'ai été déconnecté, j'ai perdu la question, mais on vient de me la renvoyer. Donc, le mari de ma grand-mère, voilà, qui est le beau-père de mon père. Donc, Cher, en prenant l'exemple de ma femme, pour que ce soit proche de vous. Donc, si votre mère, Cher, se marie, ce sera le mari de la grand-mère de ma femme. Et en même temps, cette personne, donc il sera le mari de sa grand-mère, ce sera pour vous votre beau-père, cher. Donc ce sera le beau-père du père de ma femme. En fait, pour résumer, cher, le mari de la grand-mère, c'est plus simple.
Oui, c'est un mahram, ça. Maintenant, donnons cet exemple que ma mère se marie, etc. Non, non, j'ai bien compris la chose. Ça, il devient un mahram pour ton épouse à toi. Pour ton épouse à toi, il devient un mahram. Donc, pour cette sœur qui a posé la question, il devient un mahram pour elle. Le mari de sa grand-mère devient un mahram pour elle. Fadlan.
Barakallahu fikoum, cher. Une sœur demande des précisions par rapport à la question de la mutuelle. Parce que, elle dit, comment alors éviter les dettes dans ce cas? Car tout le monde n'est pas en mesure de payer le tiers payant pour plusieurs jours d'hospitalisation, médicaments, etc., intervention chirurgicale. Comment fait-on donc si cela dépasse nos revenus et que de l'autre côté, on est légèrement au-dessus du seuil de la CMU, donc, est-ce qu'ils doivent s'endetter? Elle donne un exemple, un homme a un accident et était hospitalisé en réanimation. Cela lui coûterait 1500 euros, voire 2000 euros la nuit, cher. Une simple hospitalisation basique en pédiatrie, c'est 700 euros la nuit. Sachant que les salaires en France sont environ 1500 euros. Donc tout le salaire peut partir en une seule nuit d'hôpital. Qu'est-ce que vous leur conseillez, cher?
Je leur conseille, si c'est possible, inshallah ta'ala, de poser cette question à un savant. De dire, voilà, on a un grand problème en France, et voilà, on n'a pas de solution, etc. Enfin, je sais que la première des choses, ils vont vous dire, quitter ce pays. Mais maalesh, il y en a celles et ceux qui ne peuvent pas quitter, et qui pour l'instant ne peuvent pas quitter, etc. Non. Donc, inshallah ta'ala, si c'est possible, de poser la question, yani, à des salons, à des salons, à des savants, bi'idhnillahi ta'ala.
Barakallahu fikoum, cher. Question suivante d'un frère qui dit: Eh cher, qu'Allah vous préserve et vous accorde le Firdaus ainsi que les admins. Amin ajma'in. J'ai acheté deux terrains il y a 6 mois en prévision de la Hijra dans un pays musulman. Malheureusement, je n'ai pas la capacité de finir de les payer et je connais des difficultés d'argent. Donc, ils s'étaient mis d'accord pour des paiements avec échelonnement, cher. Je souhaite me désister, rendre les terrains et me faire rembourser, mais les frères qui me les ont vendus ne veulent pas. Ma question est, cher, dans le fiqh, les vendeurs peuvent-ils refuser de reprendre les terrains et me rembourser dans cette situation? Donc, la personne est maintenant en difficulté d'argent. Elle ne peut continuer à payer les terrains. Elle demande le remboursement, mais les frères lui ont dit non, on ne te rembourse pas. Donc, quelle est votre réponse, cher? Jazakumullahu khaira, et qu'Allah vous élève en degré, ainsi que toutes les personnes dans le salon. Ils considèrent que l'accord est conclu et ils ne veulent rien savoir. Donc, pour eux, ils ont vendu et maintenant ils se débrouillent pour finir de payer.
Là, vous m'entendez? Ce qui est bien, c'est que d'une chose très importante. Laquelle? C'est comme je vous ai dit une fois, par exemple, que quand quelqu'un jure, qu'il dise Inch'Allah. Comme ça, qu'est-ce qui se passe? Si jamais il change d'avis, alhamdoulilah, il a une issue et une sortie de son problème, comme ça, il n'a pas de cas d'expiation parce qu'il a dit Inch'Allah. La même chose, quand quelqu'un va acheter, surtout des choses importantes comme ça, il faut toujours yani, voir loin. C'est pour ça que quand quelqu'un va au Hajj, s'il est plus ou moins malade, et il sait qu'il a des problèmes de diabète, de tension, de ceci, cela, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit, yani, plutôt, c'est conseillé pour lui, de faire la condition, comme a fait cette femme, à laquelle le professeur lui a dit que, yani, voilà, tu fais comme condition que, yani, si jamais je ne peux pas continuer, fais ma hidli, haythu, habistani. C'est-à-dire que là où je ne peux plus, je tombe malade, etc., pendant le Hajj, là-bas, j'arrête et je sors du Hajj pour le répéter, le refaire la prochaine fois, inshallah ta'ala, sans quoi, sans avoir de péché, sans avoir besoin de dégorger. El-Mohim, la même chose pour les ventes. Quand tu vas acheter quelque chose d'important qui demande des millions ou des milliards ou je ne sais pas quoi, fais des conditions. Yahri, si ceci, cela, voilà, yani, on ne continue pas. Je te rends et tu me rends. Si ceci, cela, voilà ce qu'on doit faire. Et comme ça, pose des conditions. C'est pas tu vas acheter comme ça directement ensuite. Tu vas dire, ah, j'ai des problèmes, je savais pas que je pouvais pas continuer, etc. En islam, quand quelqu'un se met d'accord avec quelqu'un pour acheter une chose et il la lui vend, là, ce n'est plus une obligation pour lui de la reprendre. C'est comme ça en islam. Je t'ai vendu la chose, et c'est terminé. Tant que on s'est séparé, si on ne s'est pas séparé, je suis toujours avec toi debout, et la marchandise est entre nous, j'ai le droit de revenir. Mais tant que on s'est séparé, je suis parti de mon côté, et toi de ton côté, ou alors moi seul je suis parti de mon côté, la vente est finie. Classe est finie. Sauf quoi? Sauf on dit les savants, si je mets une condition. Je dis par exemple, dans 3 jours, je te confirme. Ou bien laisse-moi cette marchandise 1 mois et je viens te, si elle me plaît, je viens te payer. Et comme ça. Ça s'appelle en arabe, fil fiqh, khiyar shart. Khiyar shart. Et le prophète Sam, il a dit, bay'an bil khiyar, malam yatafarraqa. Il a dit, les vendeurs, c'est-à-dire l'acheteur et les vendeurs, sont dans le choix. Tant qu'ils ne se sont pas dispersés. Tant qu'ils ne se sont pas quittés. S'ils se quittent, c'est terminé. El-Mohim, maintenant, si jamais le vendeur accepte de que tu lui rendes la marchandise, il aura des hasanat. C'est conseillé pour lui. Il y a un hadith authentique qui dit que s'il accepte, que Allah Ta'ala acceptera aussi, yani ses fautes yawm al-qiyamah, et lui pardonnera. Naam. Ça s'appelle iqala en arabe, fil fiqh. Iqala. S'il accepte, c'est bien, il aura des récompenses, mais ce n'est pas obligé. Donc maintenant, ceux qui ont vendu cette terre, s'ils veulent accepter, ils ont la foi et mashallah, etc., ils auront beaucoup de hasanat. S'ils n'acceptent pas, tu vois, ou bien tu es obligé de payer, de continuer, et ensuite, de quoi? De vendre ce morceau de terre, ou alors, yani, leur dire que, voilà, donc je ne prends de cette terre que ce que je vous ai donné comme argent et ce que j'ai payé. Non, yani, je peux pas, il n'y a pas comment. Wallahu ta'ala alam. Tfadlal.
Allahu alim, cher. Peut-être un petit conseil, je ne sais pas si c'est faisable, mais si vous pouvez trouver par exemple une autre personne à qui revendre ce terrain, et comme ça, toi tu récupères ta somme d'argent, et eux peut-être le vendront plus cher qu'à toi. Allahu alim, donc si vous pouvez trouver un terrain d'entente, surtout que vous êtes des frères, donc en espérant que cela ne sera pas une cause pour briser la fraternité qu'il y a entre vous. Question suivante, chère, question d'une sœur qui dit: est-ce qu'une sœur non mariée et qui a formulé l'intention de ne jamais travailler peut consommer l'argent issu du RSA, donc de l'aide de l'État pour les personnes qui ne travaillent pas, sachant que c'est une aide qui stipule d'être actif dans la recherche d'emploi ou de formation. Donc, chère, toute personne qui demande cette aide à l'État, elle doit donc s'engager à chercher un emploi et chercher ou une formation ou autre. De plus, pour pouvoir faire la demande de cette aide, elle s'est inscrite au Pôle emploi. Donc, c'est un organisme là-bas, car cela est obligatoire pour bénéficier de l'aide. Lors de son entretien, elle a stipulé qu'elle était intéressée par une formation. Mais après avoir effectué des démarches pendant 3 mois pour savoir si cette formation lui était facile d'accès, elle a trouvé que non. Donc, est-ce que l'argent versé durant ces 3 mois lui est licite à la consommation? D'autre part, elle doit chaque mois actualiser sa situation qui montre qu'elle est toujours active. Donc, chaque mois, les personnes répondent à un questionnaire. Parmi les questions chères, on leur demande s'ils sont toujours à la recherche d'emploi. Est-ce qu'ils cherchent bien un emploi, etc. Et qu'ils ne travaillent pas, bien sûr, aussi. Mais comme ce n'est plus le cas, elle ne compte plus s'actualiser. En conséquence, elle lui sera toujours versée jusqu'à ce que l'organisme qui verse l'aide se rende compte de cela et lui coupe automatiquement cette aide. Donc sa question, chère, elle veut savoir est-ce que cet argent est aussi licite? Car en fait, après qu'elle ait demandé, ils ont dit qu'elle ne sera pas obligée de rembourser l'argent perçu, car selon la loi, il est à elle.
Vous m'entendez? Si, je réponds d'abord en général, je dis, si pour percevoir cette aide, on pose comme condition qu'on doit être actif et chercher du travail, etc. Ensuite, que la personne ne cherche aucun travail et perçoit cette aide pour elle est haram. Cette aide, ça veut dire que tu manges du haram. Pourquoi? Parce qu'ils t'ont posé comme condition que... On t'aide à condition que tu cherches du travail. Et toi, tu vas t'enfermer, tu dis, moi, je cherche pas le travail. Je vais apprendre le Coran et je lis Sahih al-Bukhari, ça me suffit. Dans ce cas, l'argent qui rentre est haram. Parce qu'il t'a été donné en contrepartie de chercher le travail. Ça, maintenant, si tu as cherché le travail et le travail ne te convient pas, tu as le droit, tu as raison. Tu dis, moi, quand je dis cherche travail, je cherche pas à travailler dans un bar. Moi, je cherche un travail conforme à ma charia. Dans ce cas, si tu refuses un travail, ça ne fait rien. Et tu dois même le refuser. Et l'argent est halal. Parce que tu ne vas pas travailler dans le haram. C'est-à-dire, premièrement. Deuxièmement, quand elle a dit qu'elle a demandé, on lui a dit que cet argent te revient, car c'est l'État qui te l'a donné, etc. Je lui ai dit, tu as demandé à qui? Si tu as demandé à l'organisme, et on t'a dit cet argent te revient, il te revient. Mais si tu as demandé à des gens, ou alors des sœurs que tu connais ou de la famille et qui t'ont dit c'est halal, non. Donc il faut demander à l'organisme et lui dire voilà, ça fait 3 mois que j'ai envoyé une lettre pour vous dire que d'arrêter, vous m'envoyez toujours. S'ils te disent oui, prends-le, dans ce cas c'est halal. Eux, ils te l'ont donné, l'État lui-même te l'a donné. Mais si maintenant ce sont des gens, des voisins qui t'ont dit que c'est halal, non, c'est pas comme ça. نعم تفضل
Comme cher. Cher, est-ce que vous savez à combien de questions vous allez répondre à peu près pour que le frère Toffer sache s'il doit récupérer d'autres questions? En attendant, cher, question suivante d'une sœur qui dit 20. Donc à toi de voir Toffer s'il t'en reste encore 3. Là, c'est la 18e question, c'est bien ça, Fouzi? Ou la 17e? La 18e normalement. Alhamdoulilah. Donc si tu as 3 questions, alhamdoulilah, sinon prends-en d'autres. Donc, question d'une sœur qui dit: Cher, j'ai entendu dire que le fait de dire Masha'Allah ou Tabarakallah pour éviter le mauvais œil était une bid'a, cher. Est-ce que cela est vrai, Barakallah fikoum?
Ceux qui sont dans la aqidée qui est Masha'Allah, je préfère terminer avec elle. Pose Inch'Allah Ta'ala la 19e question. La 19e, ensuite la 20e, et on revient à la 18e. Tfadl, c'est quoi la 19e? Quand je vais vous dire ce qu'a dit Cheikh Ben Othaymin, rahimahullah, dans Masha'Allah et Tabarakallah, et quand est-ce qu'on dit Masha'Allah, et quand est-ce qu'on dit Tabarakallah, une chose vraiment, c'est très importante. Tfadl, c'est quoi la 19e?
La 19e question, cher, question d'une sœur qui dit Ahsanallah ilaykoum, cher. Alhamdulillah, que votre tout soit parti. Je voulais savoir si la sunna dans la prière de Doha est de réciter toujours Sourate Shams dans la première raka'a et Sourate Doha dans la deuxième. Barakallahu fikum wa hayakumullah fi ta'atihi, cher.
Non, c'est vrai pour la touche, je ne l'avais pas remarqué. Donc je disais, Alhamdulillah, ladhi bi ni'mati tatim salihat. Pour salat al-duha, sachez qu'il n'y a rien dans la sunna qui dise qu'on doit lire telle et telle sourate dans la première raka ou la deuxième ou la troisième ou la quatrième. Vous avez compris? Salat al-duha, c'est à chaque fois deux rakat et on dit salam alaikum. Le minimum, c'est deux, le maximum, c'est 12. Non. Il n'y a rien dans la sunna qui dise qu'on doit lire avec salat al-duha ou bien avec autre sourate bi'idhnillahi ta'ala. On choisit la sourate qu'on veut et on lit avec. Tfadl.
Madame Cheikh, Barakallahu fikoum. Donc, avant que vous finissiez avec l'autre question, tout vert, j'attends toujours la question. Donc, voilà, Cheikh, j'ai 13 jours de jeûne à rattraper du Ramadan dernier. Et je suis tombée enceinte, alhamdoulillah, mais par rapport à ma dernière grossesse, cette fois-ci, je ne me sens pas capable de rattraper ces jours, dû à certaines faiblesses, et je n'aurai pas la possibilité de les rattraper avant le mois du Ramadan prochain. Donc ma question, que dois-je faire, cher? Et si je dois nourrir un pauvre pour chaque jour manqué, que dois-je donner par jour? De l'argent ou de la nourriture? Et si c'est de la nourriture, quel poids dois-je donner? À quel type de personne dois-je donner? Car en France, un pauvre est difficile à trouver. Est-ce que je peux donner à une personne qui a des dettes ou associations, encore une mosquée? Barakallahu fikoum, cheikh. Donc je répète, elle a 13 jours de jeûne à rattraper du Ramadan dernier et elle est tombée enceinte, alhamdoulillah. Mais là, elle se sent faible pour pouvoir rattraper les jours de jeûne. Donc que doit-elle faire, cheikh?
Elle a 13 jours à rattraper. Non. Je suis sûr que je ne me trompe pas. Mais Inch'Allah ta'ala, ma allez, juste pour enlever les doutes. Ce sont, Inch'Allah ta'ala, 13 jours du cycle menstruel. Demande-lui si c'est vrai. Juste pour être très sûr. Tfadla.
Naam, cher, en attendant la précision, donc arrête tout faire si tu peux m'apporter la précision. C'était juste une question, cher, si vous pouvez y répondre. À savoir qu'il y a des enfants, donc de 5 ans et 7 ans, si je ne me trompe pas, qui ont perdu leur père. Mais jusqu'à présent, personne ne leur a dit. Et en fait, les personnes veulent savoir de quelle manière annoncer la mort du père à des enfants en bas âge, cher. Est-ce que vous avez un conseil à leur donner? Est-ce qu'ils doivent leur dire dès maintenant, leur cacher ou autre? Afouane, c'est plus que la 20e question, mais c'était parce que c'est une question importante, cher.
Quand ils sont comme ça en bas âge, même si tu lui dis il est mort, il va pas comprendre. Même si tu lui dis il est mort, il va pas comprendre. Non. Est-ce que quelqu'un qui a 4 ou 5 ans, il va comprendre que ça veut dire mort? Il va pas s'arrêter de poser des questions, c'est quoi mort? Quand est-ce qu'il revient? Et pourquoi il a tardé? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Je pense, Wallahu ta'ala alam, que le mieux serait d'attendre que la personne yani, commence à bien comprendre pour lui expliquer avec hikma que yani, nous tous on doit partir et que, alhamdoulillah, ton père était musulman, il faisait la prière, il était masha'Allah, Et Femt, Allah Ta'ala a voulu qu'il quitte ce monde pour Inch'Allah Ta'ala qu'il le fasse rentrer au paradis parce que c'est Inch'Allah, tu as dit Inch'Allah, pour Inch'Allah Ta'ala qu'il rentre au paradis car tous les musulmans Inch'Allah iront au paradis et comme ça. C'est mon avis, Wallahu Ta'ala. J'attends yani, l'âge où il commence à bien comprendre et il insiste à vouloir comprendre et non pas quand il a 4 ou 5 ans. Je lui dis, il est mort, il va me dire, achète-moi une sucette. Il sait pas ce qui se passe. Fadal.
Est-ce que vous avez pu trouver la réponse? Parce que la sœur, pour le moment, n'a pas donné de précision. Donc, est-ce que vous avez pu trouver? Non.
Non, moi je pense que c'est ça. Parce que pourquoi je voulais savoir? Je voulais savoir pour être sûr que ce ne sont pas des jours d'une autre grossesse. D'une autre grossesse, c'est-à-dire des dettes. Sinon, ça change quand ça vient des dettes d'une grossesse. Que vous savez que la femme a peur pour son bébé ou pour sa grossesse, qu'elle peut manger et quoi? Et comment dire? Et faire nourrir un pauvre. El Mohim, tfadla.
Cher, Afwan, je m'excuse vraiment, c'est juste que la précision est parvenue. Elle dit c'était des menstrues et comme je prenais la contraception, ça m'a complètement déréglé et j'avais un doute concernant le fait que c'était des menstrues ou métrorragie. Métrorragie. Donc je ne jeûnais pas, c'est d'ailleurs une des causes pourquoi j'ai arrêté la contraception. Donc à cause du moyen de contraception, cher, ça l'a complètement perturbé. Et donc normalement, ça a dit que c'était les menstrues, mais c'est peut-être des métrorragies si vous pouvez l'éclairer. Voilà, que l'on fait comme ça.
C'est pas métrorragie, ce sont des monstrues au Allah. Si le sang est noir, il a une couleur noire, il a une odeur, il est gras et ne se coagule pas. Ou alors le contraire, attendez, ne se coagule pas une seconde. L'un des deux sangs, yani, si le sang des monstrues se coagule, donc l'autre ne se coagule pas. Si le sang des monstres ne se coagule jamais, donc l'autre se coagule. C'est ça la différence entre les deux. Un moyen. Ensuite, les métrorragies, en principe, ça dépasse 15 jours. Quand ça dépasse 15 jours, on va dire c'est des métrorragies. Sinon, la base que le sang chez la femme, c'est celui des monstres. Un moyen. Donc, cette sœur, je lui dis que maintenant, elle est enceinte, elle ne peut pas jeûner, elle a peur que le ramadan vienne. C'est ça son problème. Je lui dis, il ne faut pas avoir peur. Pourquoi? Parce que ces jours, les 15, sont toujours une dette fidimmatique. Une dette, yani, sur ton cou. Et maintenant, ils sont enceintes et ne pouvant pas jeûner et se sentant faibles, etc. Allah Ta'ala ne va pas te dire pourquoi tu ne vas pas jeûner dans cet état. Et si jamais, l'aqdar tu venais à mourir, Allah Ta'ala ne va pas te dire pourquoi tu n'as pas jeûné. Car Allah Ta'ala sait que tu avais dans l'intention que quand tu allais guérir et te fortifier, de les rattraper bi'idhnillahi Ta'ala. Sinon, je dis, pour les dettes des menstrues, il n'y a pas nourrir. Non, je ne peux pas, je vais nourrir. Non. Tu attends jusqu'à Inch'Allah Ta'ala que la personne puisse. Naam. Et si elle meurt, alhamdoulilah, elle avait l'intention. Si elle ne meurt pas, elle attend Inch'Allah Ta'ala jusqu'à ce que elle reprenne sa force, même si ça dépasse une année ou deux ou trois. Ça dépasse. Mouhim, elle attend qu'elle soit forte et elle les rattrape bi'idhnillahi Ta'ala. Quant à celle qui a des péchés et on a peur pour elle, c'est celle qui est forte et a la santé et laisse l'autre ramadan arriver. C'est celle-là c'est grave pour elle, c'est difficile pour elle. Elle est bien, elle a tous les moyens et mashallah en santé. Elle peut jeûner et elle jeûne pas jusqu'à ce que vienne le deuxième ramadan, le troisième, le quatrième et comme ça. C'est celle-là qui a des péchés. Voilà, inshallah, maintenant on va terminer avec la question 2. Yani, quand est-ce qu'on dit mashallah Est-ce que c'est bid'a de dire Masha'Allah, et est-ce qu'on doit dire Tabarakallah, ou qu'est-ce qu'on doit dire? Écrivez numéro 1 si vous m'entendez. Alhamdoulilah. Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah a dit, si j'ai une bonne mémoire, inshallah ta'ala, a dit, attendez, il a dit, voilà, il a dit, ça se divise en trois. Ça se divise en trois. Il a dit, si la chose sur laquelle je veux dire masha'Allah ou la tabarakallah ou là, m'appartient à moi. Il a dit, dans ce cas, quand je vois cette chose, je dis masha'Allah. Ou bien je dis masha'Allah, la quwwata illa billah. Il a dit exactement, Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah a dit, il a dit exactement comme quoi? Il a dit comme celui qui a été cité dans Sourate Al-Kahf. Lorsque Allah Ta'ala a dit Laula id dakhalta jannataka, qulta ma sha Allah, la quwwata illa billah. Dans Sourate Al-Kahf, vous connaissez l'histoire de dialogue qu'il y a eu entre les deux personnes, et l'autre qui lui a dit, si seulement quand tu es rentré dans ton jardin, tu avais dit Masha Allah illa billah. Pourquoi? Dans ton jardin. Donc toi, quand tu vois ta belle voiture, quand tu vois ta belle maison, quand tu rentres dans ton jardin, tu dis Masha Allah. Tu peux ajouter la quwwata illa billah, comme a dit Cheikh Ibn Uthaymeen. Petite 1. Deuxièmement, maintenant si la chose ne m'appartient pas à moi, appartient à une autre personne. Moi, je vois ta belle voiture. Moi, je rentre dans ton beau jardin. Moi, tu m'invites dans ta belle maison. Qu'est-ce que je dis? Je dis Tabarakallah. Ou bien Allahumma barik. Et je dis pas Masha'Allah. Vous avez compris? Il a dit comme cet homme qui était en train de quoi? En train de se laver. Et quelqu'un est passé, il l'a vu. Et les Arabes, la plupart, vous savez, le soleil, etc., sont mat de peau noire. Quand il a vu comme ça, blanc, mashallah, yani, il a frappé d'un mauvais œil. Il est tombé, etc. Et le professeur, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Allah ma yaqtulu ahadukum akha. Pourquoi l'un de vous tue son frère? Allah barakt. Pourquoi quand tu l'as vu, tu n'as pas dit tabarakallah? Ou tu n'as pas dit Allahumma barik lahu? Donc, vous avez compris, quand la chose ne nous appartient pas, on fait des doigts, on dit Allahumma barik lahu, barik lahu fi siyara, barik lahu fi manzilihi, barik lahu fi matalan haqlihi, son champ, ou bien jannatihi, naam, son jardin, et comme ça. Taïb, maintenant, si c'est troisième, c'est petit c, maintenant, si jamais je marche dans la rue par exemple, et je vois par exemple la mer, comme ça, qui attire, ou bien je vois des châteaux, je vois des choses qui peuvent, qui attirent comme ça mon nefs. Qu'est-ce que je dis? Cheikh Ibn Uthaymeen, il a dit, tu dis, Allahumma la aisha illa aisha al-akhirah. Oh mon Seigneur, il n'y a que la vie de l'au-delà. C'est-à-dire, pour ne pas être attiré par ce monde, quand tu vois comme ça des choses, yani, belles, somptueuses et comme ça, naam. Des gens qui ont des forêts, des ceci, de là, naam. Tu dis, Allahumma la aisha illa aisha al-akhirah. Ya Allah, il n'y a de vraie vie que l'au-delà. Donc, je répète, je résume, ça se divise en trois. Si c'est ma chose, je dis Masha'Allah. Ou bien Masha'Allah, la quwwata illa billah. Si c'est la chose de quelqu'un, je lui fais des doigts. Si c'est maintenant une chose générale comme ça, yani, qui m'attire un peu vers. Veut m'attirer, ce bas monde qui m'attire, je dis Allahumma la aisha illa aisha al-akhirah. Ô Seigneur, il n'y a de vie que la vie de l'au-delà. Ça veut dire, il n'y a de vraie vie que la vie de l'au-delà. Voilà, inshallah ta'ala pour aujourd'hui. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.